1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission Le Grand Tout qui, comme la précédente, celle de lundi, sera grandement consacrée à un retour sur le festival TNB. Une interview, en l'occurrence aujourd'hui, réalisée par Nadia qui a pu rencontrer Gaël Bourges, metteuse en scène et chorégraphe de la compagnie Os qui présentait pendant le festival TNB La Petite Soldate. Transformation de l'histoire du soldat de Charles Ferdinand Ramus et Stravinsky. C'était en 1917. Elle féminise les personnages, Gaël Bourges, et puis transpose l'action pendant la guerre d'Algérie. On entendra aussi quelques extraits de la bande-son un peu disco, et puis aussi quelques extraits de la version française originale datant de 1917 de la pièce L'histoire du soldat, avec des voix de François Perrier ou Philippe Clay. Une histoire enregistrée donc plutôt dans les années 1950, mais qui date de 1917. On retrouvera aussi une session info concert spéciale off de trance avec ce qui se passera du côté des Ateliers du Vent, une belle soirée proposée par Epistolar et Muraille Musique, avec notamment Marion Cousin et Héloïse Decaze. Je présenterai aussi ce qui se passera du côté de la salle AGH ex 4bis, puisque Ideo Productions, Beast Records et la Nef des Fous s'unissent pour vous proposer les 4 et 5 décembre le ouf. Et puis on terminera avec ce que le hibou vous a concocté le 5 décembre avec les crêtes brûlées et la piñata. Mais on commence dans quelques secondes avec cette rencontre entre Nadia et Gaël Bourges. Bonne émission.
Entre danger de Neuzy, un soldat qui rentre chez lui. Jours de congé qu'il a, marche depuis longtemps déjà.
Alors à chaud, Gaël Bourges, comment vous avez vécu cette représentation, qui est une représentation jeune public, avec beaucoup d'enfants dans la salle? Quelle perception vous avez eue de cette réception du public?
Pour préciser, on est vendredi après-midi, fin de semaine. Pendant le spectacle, ils étaient à bloc, hurlant dès les premières mesures de musique. Au début, il y a un twist. Ils étaient à fond. Donc, c'est super.
C'est une bonne énergie pour vous.
Oui, c'est une bonne énergie, oui, oui. Et puis, on fait confiance au spectacle. On sait qu'on pourrait avoir peur et se dire que les jeunes gens ne vont jamais se calmer et pouvoir avoir de l'écoute. Et en fait, quand on repasse dans les nappes plus mélancoliques et plus sombres, ça se calme tout de suite. Donc en fait, la dramaturgie du spectacle opère toute seule. C'est une bonne nouvelle.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de revisiter l'histoire du soldat de Charles Ferdinand Ramus et de Stravinsky et d'en proposer votre propre version?
Je ne sais pas dire pourquoi j'aime telle ou telle chose. Hein. Pourquoi est-ce qu'on aime les Bee Gees, par exemple, plutôt que, je ne sais pas, ou une chanson de Dalida? C'est des choses qui sont dans l'affect, donc ça se construit peu à peu dans l'enfance, l'adolescence. L'histoire du soldat, je l'ai connue dans mon jeune âge adulte, j'avais la vingtaine, et j'ai beaucoup aimé cette histoire de diable et de soldat. Donc c'est une histoire, c'est un conte musical, c'est une sorte de, enfin ça s'appelle un mimodrame. Donc c'est Stravinsky qui a écrit la musique et Ramu qui a écrit le texte. Ils ont fait ça pendant la Première Guerre mondiale. Ils étaient tous les deux en Suisse. Ramu est en Suisse, Stravinsky est en réfugié en Suisse. Ils s'emmerdaient, c'était la guerre. Eux, ils n'étaient pas mobilisés. Ils avaient de la chance. Et donc, ils se sont dit, se rencontrant, si on faisait quelque chose tous les deux, un truc un peu léger, sept instruments, trois acteurs. Bon, c'était pas léger, en fait. Ils étaient 10 sur scène, mais quelque chose plus de... Comme sur une place, comme une fête foraine, avec des musiques inspirées du jazz, du ragtime, du tango. C'était déjà toutes les influences qui arrivaient, notamment des États-Unis et d'Argentine, que Stravinsky a recomposé. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé surtout la noirceur du conte, qui est un conte, en fait, qui est très habituel dans les légendes d'Europe, notamment d'Europe de l'Est. On dit plus tellement de l'Est aujourd'hui, mais un peu quand même, voilà. Le conte s'appelle dans le folklore Le Diable et le Déserteur. Donc Stravinsky et Ramu ont déjà repris quelque chose d'ancien. Je pense que c'est Stravinsky qui a raconté un truc russe à Ramu, mais peut-être que Ramu a raconté un truc suisse, j'en sais rien. Et par contre, eux, ils ont décidé de pas faire du soldat un déserteur, mais d'en faire un soldat en permission. Déjà, premier indice, je me suis dit pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'ils avaient honte d'en faire un déserteur parce que Première Guerre mondiale et que tout le monde est sur le front, pas eux, mais les hommes de leurs âges, ils ont une trentaine d'années à l'époque. Donc ils ont peut-être pas, ils se sont dit vaut mieux faire un mec en permission, c'est plus cool quand même. Et puis en fait, dans l'histoire, c'est un jeune soldat qui doit avoir 18 ans, qui est parti à la guerre, qui revient en permission, qui a rien demandé à personne, comme tous ces jeunes gens qui sont partis à la guerre, qui se sont fait totalement massacrer dans les tranchées, comme on le sait. Et en plus, il rencontre le diable, ce pauvre jeune homme. Il le reconnaît pas parce que naïf, le diable se déguise tout le temps en autre chose que le diable. Et ce diable lui dit, disons, j'adore ton violon, parce que dans l'histoire originale, c'est un violon. Tu me le files. Le soldat dit, mais n'importe quoi, je m'en fous complètement de te filer mon violon, c'est mon violon. Et le diable lui dit, mais si tu me le donnes contre un livre qui lit dans l'avenir, ça peut t'intéresser. Et le livre qui lit dans l'avenir, c'est 1917, hein, c'est un livre qui lit Le cours de la bourse, par exemple. Et le soldat se dit, il est un peu fauché, il se dit, ah, c'est peut-être pas mal parce que je suis fauché, j'ai une fiancée au pays, bon plan. Et en fait, en faisant ça, il perd son âme, c'est-à-dire qu'en perdant son violon, il perd son âme et personne ne le reconnaît quand il rentre. Et donc, ça finit mal. Et je me suis dit, c'est affreux en fait, c'est Première Guerre mondiale, le soldat rentre en permission, il est naïf, jeune, il joue du violon. En plus, il offre son violon à un vieux type avec un fil à papillon qui tombe en amour de son violon et se dit bah, « pourquoi pas ?» Et en fait, ce jeune-là perd tout. Il finira par rôtir en enfer. Je me suis dit, c'est quand même... En fait, ce qui est drôle, c'est que l'histoire de Stravinsky et Ramu ne dit rien de l'horreur de la Première Guerre mondiale, mais en même temps, la noirceur du conte dit tout. Et ça m'avait marqué. Et puis, le temps a passé. Et puis, là, moi, j'aime bien, tous les 2-3 ans, penser à un spectacle pour les enfants. Et cette histoire-là m'est revenue. Et comme on est dans un temps de guerre, à nouveau, nous, on a de la chance sur le territoire français de ne pas en avoir, mais il y en a beaucoup autour. Il y en a toujours beaucoup autour, et on parle surtout de certaines, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très prégnant aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi pas, c'est super gay pour les enfants, hein, la guerre, tout ça, l'enfer. Enfin, je rigole, mais c'est vrai que ça m'intéresse de faire des choses sombres aussi pour les enfants, et pas forcément faire des choses qui sont guillerettes et qui font oublier les temps noirs qu'on traverse. Et je me suis dit, adaptons cette histoire.
Et justement, vous l'avez adapté. Vous avez notamment féminisé les trois personnages, si on les considère comme des personnages. Donc, le soldat devient une soldate. La diable, vous dites la diable. Il y a la fiancée et il y a la narratrice. C'est une narratrice. Pourquoi ce changement de genre? Qu'est-ce que ça interroge de qu'est-ce que vous voulez aussi interroger à travers ce changement de genre?
Quelque chose de très simple aujourd'hui, mais qui l'était pas du tout quand j'étais petite, il y avait que des il y avait l'histoire du soldat, mais ça c'est même pas ma génération, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages masculins, que les personnages féminins, c'est dans mes souvenirs d'enfance, c'était plutôt des princesses et des reines, etc. Et c'est vrai que bien avant le mouvement MeToo, il y a déjà eu d'autres féminismes, heureusement, ça fait longtemps que les femmes sont féministes, hein. Je pense qu'il y a toujours eu des femmes féministes, mais moi j'étais, sans connaître ce mouvement là parce que quand j'étais petite j'en savais rien, j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de garçons garçons forts qui partent à la guerre ou le diable, enfin des personnages comme ça masculins qui n'ont pas forcément les bons rôles d'ailleurs, mais qui ont les rôles principaux surtout. Et moi, ça m'a marqué. Donc, c'était super quand les nouveaux féminismes sont arrivés. Donc, moi, j'ai pas non plus connu celui de Simone de Beauvoir, parce que c'est pas ma génération. J'ai pas connu celui du MLF, parce que j'étais enfant seulement. Et donc, j'ai connu plutôt celui du début de l'année 90-2000, et puis maintenant, et puis plus tard, le mouvement MeToo, 20 ans plus tard. Mais ça m'a vachement intéressée, parce que ce que moi, je vivais déjà dès l'enfance et l'adolescence a grossi et grondé de plus en plus, jusqu'à en tout cas dans certains pays européens, c'est pas partout dans le monde malheureusement, mais il y a vraiment un grondement comme ça qui fait que des femmes et des hommes, heureusement, il faut aussi qu'il y ait des hommes qui se saisissent de ça, transforment des personnages masculins archétypaux en personnages féminins archétypaux aussi, qui ne soient pas des princesses en fait. Et j'ai trouvé que des rôles pas bons comme un diable, eh ben, il y a aussi des femmes qui sont diaboliques et qui, il y en a eu plein et il y en a encore aujourd'hui. Et du coup, je trouvais ça intéressant que les femmes aussi puissent endosser des rôles chiants, type un soldat qui part à la guerre. Et là, donc, j'ai repris le conte original d'en faire une déserteuse, parce que j'imagine qu'il y a des déserteuses. J'en sais rien, mais j'imagine. En tout cas, dans les guerres, il y a eu des femmes. Elles n'étaient pas forcément au poste de combat dans certaines guerres. On n'en sait rien dans l'Antiquité, hein. On n'en sait rien en fait. Là, récemment, dans l'histoire récente, les femmes étaient plutôt au poste de médecine, mais par contre, dans la guerre d'Algérie, par exemple, j'y reviendrai plus tard, il y avait beaucoup de femmes en fait qui revenaient d'Indochine, de l'armée française, qui sont parties en Algérie et qui étaient à des postes de stratégie, etc. Et qui étaient donc médecins, infirmières, mais il y avait beaucoup de femmes aussi qui filmaient, par exemple. Et ça, c'est très peu comment, enfin. Archivé, mais il y a, je suis en train de lire un article d'une femme justement universitaire qui est en train de recenser justement le nombre de femmes qui ont participé à la guerre d'Algérie, et c'est assez notable le chiffre. Et par ailleurs, les combattantes algériennes du FLN, mais pas seulement algériennes, mais aussi des françaises, mais évidemment beaucoup de femmes algériennes ont pris les armes dans l'armée de front de libération pour l'indépendance de l'Algérie. Donc en fait, il y a eu des femmes combattantes en Algérie. Donc j'avais envie aussi de montrer cette figure de jeune soldate. Ça existe en fait. Il n'y a pas de représentation, c'est toujours des jeunes mecs que les mères vont pleurer après. Et donc là, j'ai voulu inverser les choses. C'est une jeune soldate qui a appelé dans mon imaginaire, qui a appelé la guerre d'Algérie. Donc c'est plus la Première Guerre mondiale, c'est la guerre d'Algérie. Elle déteste cette guerre. Elle est contre la colonisation française, elle se casse. Et c'est son père qui l'attend. Et c'est aussi une fiancée. Donc c'est aussi, c'est inverse, c'est pas toujours le garçon qu'une fille attend au village. Là, c'est une fille, ok, elle déserte. Elle fait son taf, mais elle a pas envie de le faire, donc elle arrête. Et elle a une fiancée au village. C'est juste pour... c'est des choses très simples sur le papier, en fait. Hein. C'est que je change juste je féminise, mais ça produit en cascade énormément de conséquences qui sont assez joyeuse pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des femmes soldates, il y a des femmes soldates lesbiennes, il y a des pères qui pleurent leurs filles qui sont parties à la guerre ou qui meurent à la guerre. Et ça nourrit les imaginaires des enfants qui sont encore pour beaucoup fossilisés dans des choses très genrées. Les garçons font ceci, les filles font ça, il n'y a pas beaucoup d'homosexualité. Et d'ailleurs, les enfants réagissent très fort sur l'homosexualité de la soldate.
À marcher, à beaucoup marcher.
Vous l'avez dit, vous avez transposé l'action non plus pendant la Première Guerre mondiale, mais comme dans la version originale, mais pendant la guerre d'Algérie. Pourquoi ce déplacement temporel ? Quelle portée symbolique ça fait aussi en France ? On sait que la guerre d'Algérie a une portée symbolique forte. La représentation se joue dans un quartier à Morpa, où il y avait dans la salle des enfants qui étaient issus de parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Quel écho ça fait ? Pourquoi recontextualiser dans cette période de la guerre d'Algérie ?
Ça me semble absolument indispensable de se saisir de l'après, de cette guerre. Ben, quand on vit en France, quelle que soit son origine, ça nous concerne tous et toutes en fait. Mais quand même, on sera australien. Il y a plein de gens qui viennent du Maghreb et notamment de l'Algérie aussi parce que la France a colonisé l'Algérie. Donc il y a plein de gens qui sont... Nous, on est allés d'abord là, les Français. Je me dis moi parce que je vais vous dire pourquoi après. On est allés coloniser l'Algérie à partir du 19e siècle. Et quand on est enfin parti chassés par les Algériens qui ont pris les armes contre l'armée française et ils ont bien fait de le faire, on a aussi demandé à plein d'Algériens de venir travailler en France. Donc je veux dire, il devrait y avoir eu réparation depuis ce temps-là. C'est 1962. Hein, moi j'étais pas encore née, mais je suis pas née longtemps après. Il devrait y avoir réparation. On aurait dû déclarer la colonisation comme crime de l'humanité il y a bien longtemps et faire la paix avec les Algériens et trouver des moyens de réparer le mal qu'on avait fait et les accueillir au moins bien en France, qui était leur pays, puisqu'on leur a dit qu'ils étaient français pendant, voilà, bref, voilà, 100 ans. Ce qui s'est absolument pas passé. Et c'est pour moi évident que les tensions avec, encore aujourd'hui, de ce mal accueil, des gens qui sont dans les années 60 et avant aussi, mais à partir des années 60, qui se sont installés là, et tous ces gens encore qui viennent du Maghreb, alors qu'on devrait fraterniser et faire en sorte que tout le monde ait sa place ici, ça, il y a pas de réparation encore. Les mots sont venus très très tard sur le crime pour l'humanité. C'est très récent quand même. C'est Emmanuel Macron qui a déclaré ça en quelle année, je sais plus, mais
il y a 5-6 ans.
Voilà, donc c'est extrêmement récent. Et on voit bien comment les Arabes sont traités en France. C'est une catastrophe. Il y a un racisme systémique et évident. Je veux dire, on trouve pas du boulot pareil, on n'arrive pas à louer des apparts pareils. Ce n'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que presque 60 ans après la guerre, il y a un racisme latent qui est toujours là. Donc c'est, pour moi, c'est plus on se ressaisit de l'après, des conséquences de cette guerre, d'une manière ou d'une autre, mieux c'est. Quitte à se friter, je veux dire, quitte à se foutre sur la gueule, mais en tout cas, il faut que les mots sortent, il faut que les choses soient dites, qu'il y ait un dialogue. Et je trouve que un spectacle, ça peut... Moi, je ne propose pas de solution, mais je propose d'ouvrir la question. En fait, en tout cas, de la poser en disant, voilà ce qui s'est passé, de façon très lointaine, parce que justement, c'est pas un spectacle qui pose une question frontale. Et le pourquoi, donc j'en arrive là, je l'ai annoncé un petit peu plus en avant dans notre conversation. Moi, je suis une fille de pied noir. Et donc moi, je suis de l'autre côté de la barrière de la colonisation. Je suis du côté des colons. Et donc moi, ça m'a toujours absolument gênée qu'on n'en parle pas du tout dans la famille. Moi, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. J'ai appris très tard que ma famille était revenue en 62. Parce que moi, j'ai cru très longtemps que ma grand-mère était maghrébine. Parce qu'en fait, quand j'allais chez elle, elle habitait en Picardie. Je ne comprenais pas. et on mangeait du couscous tout le temps. Et ma mère sait super bien faire le couscous algérien. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on n'était pas algérien et pourquoi il pleurait l'Algérie et qu'en même temps, il n'aimait pas les Arabes. Parce que mes grands-parents n'aimaient pas les Arabes. Et en plus, mon grand-père était militaire de carrière. Donc, il a fait la guerre d'Algérie du côté français. Et il parlait arabe très bien. Et donc, c'est vraiment plus tard. Et j'ai fait la guerre d'Algérie en terminale un cours de 2 heures, je crois. Les accords d'Évian, point. Donc j'étais hyper frustrée parce que je me suis dit j'étais en quête de connaissances et c'est un cours et c'était fini. Donc c'est vraiment que plus tard que j'ai commencé à lire et dans les années 80-90, en plus les années 90 c'était vraiment les années terribles,
les
années noires en Algérie. Donc en fait ça a remis un couvercle sur ce qui s'était passé pendant la guerre pour l'indépendance de l'Algérie. Donc bref, c'est vraiment c'est quelque chose qui sort des limbes seulement avec beaucoup de violence en fait, de mépris, de manque de connaissances, manque de mots, pas assez à l'école, pas assez de dialogue dans les familles pieds noirs et algériens. Donc c'est un espèce de bombe à retardement toujours qui explose par petits bouts comme ça. C'est des grenades qui sautent là et là dans des tensions sociales très fortes. Plus on ouvrira un canal pour dialoguer, mieux c'est, moi je pense.
Entre danger donne-y, et il s'en va droit devant lui. Où est-ce qu'il va comme ça? Marche depuis longtemps déjà. Le ruisseau, ensuite le pont, où est-ce qu'il va? Le sait-on?
Il ne le sait pas lui-même. Il ne le sait pas lui non plus. Et seulement qu'il a fallu, parce qu'on n'y tenait plus. Plus rien de toutes les richesses qu'on a eues. On s'en est débarrassé. On n'a rien dit à personne. On s'est sauvé. Et on est comme dans le temps, avec le sac en moins et les choses dedans.
Sur la route de Donnezy, à cause que c'est le pays, et puis que non, ce n'est plus lui, et le dos tourné au pays. été, a encore été, a marché, a beaucoup marché.
Il y a une voix off pendant le spectacle. Cette voix, elle est centrale. Comment vous avez travaillé la relation entre votre présence vocale et votre présence physique avec ces marionnettes que vous manipulez sur scène?
La voix off, c'est dans ce spectacle-là, c'est vraiment la partition chorégraphique, c'est-à-dire qu'elle est les actions chorégraphiques ont été composées par rapport au récit. Ce qui n'est pas toujours le cas dans mon travail. La plupart du temps, la partition chorégraphique est créée avant et j'écris un texte après, qui vient s'articuler plus ou moins avec ce qu'on fait sur le plateau. Là, comme le texte existe déjà, en fait, j'utilise le texte de Ramu en l'enflant avec des bulles Algérie. Et les années 70, puisque la diable, en fait, prend la soldate et l'emmène 10 ans plus tard, dans les années 70, donc dans l'après-guerre, dans les années de décolonisation et de naissance du disco et de revendication, justement, des personnes racisées dans le monde et des droits pour l'homosexuel, enfin, des droits pour les homosexuels, etc. Donc, c'est 10 ans après. Et donc, pour moi, c'était important que ce texte-là soit entendu. Parce que le pari, quand même, c'est de faire entendre un texte de 1917, ce qui est quand même pas facile pour des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude ni d'aller au théâtre, et c'est pas non plus du théâtre, c'est vraiment une voix dite quand un peu comme dans une émission radio. Et donc, c'était important de trouver une façon de composer la partition chorégraphique pour faire entendre le texte. Et c'était complexe aussi parce qu'on a des poupées, on est deux au plateau, Hélène Hérault et moi, et on manipule une diable et une soldate, qui sont en fait des traversins de lit, hein, pour lit simple, agrémentés de costumes des années 70. Donc des choses molles et assez inertes auxquelles on donne vie. C'est vraiment une partition très millimétrée d'interagir avec certains mots du texte. On ne prend pas en charge, on se prend pas pour des comédiens en train de dire un texte, ce sont des poupées qui réagissent aux vibrations sonores du texte, aux onomatopées. Oh, ouf! Et donc, c'est vraiment un travail de danseur pour moi d'apprendre une partition qui va interagir avec des vibrations sonores sans faire trop. Il ne s'agit pas de faire comme là, je suis en train de parler. On est à la radio, donc on ne voit pas, mais je fais beaucoup de gestes des mains, j'opine du chef. Vous aussi, vous opinez du chef, on se regarde. Ça, ce n'est pas possible avec une poupée, ce serait beaucoup trop fouillis. Et donc, c'est des gestes simples. Comme des musiciens, qu'on fait coller rythmiquement à certains passages du texte. Donc c'est vraiment, d'ailleurs, pour dire la vérité, on n'est pas encore tout à fait calé avec Hélène, parce que c'est une heure de spectacle, et les poupées, on ne peut pas les commander, ça ne se commande pas une poupée. Puis, notre travail, ce n'est pas de commander des choses, on n'est pas des omnipotentes sur scène en disant « c'est comme ça que ça marche ». Et les poupées nous échappent. Par exemple, aujourd'hui, il y a une basket qui est partie, et hop, ce qui est perturbant. Il y a toujours des choses comme ça. La tête est plus molle que ce qu'on voudrait. Moi, j'ai lâché ma poupée. À un moment donné, j'étais avec la diable. La fourrure m'a glissé dans les mains. Ma diable s'est effondrée. Donc, c'est comment on se réajuste par rapport à ça. Donc, c'est vraiment un dialogue tonique entre soi et l'objet qu'on manipule, qui est une poupée, et un dialogue tonique entre les deux performeuses, les deux poupées, et Lucie Lataste, qui est la comédienne qui signe en langue des signes française. Donc on est 5 sur le plateau, et c'est le texte qu'on doit faire entendre, tout en existant nous. Donc j'avoue que c'est un des spectacles les plus complexes que j'ai fait, et j'ai l'impression vraiment que, bon, chaque spectacle, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs, créatrices de spectacles qui disent ça, c'est qu'on n'est jamais prêt à la première, et que c'est vraiment un temps long. Mais c'est plus vrai que jamais avec ce spectacle-là, parce qu'en plus, moi, je ne suis pas marionnettiste. Donc, c'est un pari aussi de travailler avec des choses dont on ne connaît rien, et d'en avoir deux, et d'arriver à faire entendre ce texte de 1917.
Mademoiselle, à présent, on peut le dire. Sûrement qu'on va vous guérir. On va tout de suite aller vers vous, parce qu'à présent, on peut tout. On va venir, on va oser, parce qu'on s'est retrouvé. On va venir, on se sent fort. On a été tiré de la mort, on va vous tirer de la mort.
Vous évoquiez justement que le spectacle est accompagné d'un dispositif en langue des signes. Il se trouve que ce dispositif, il n'est pas à la marge dans le spectacle, il est vraiment dans le spectacle. Il prend corps, en fait, dans la narration, dans la scénographie. Pourquoi vous avez eu envie de donner cette place à cette langue des signes dans ce spectacle?
C'est pas nouveau, la langue des signes dans mon travail. Ça fait longtemps que je travaille avec Lucille Lataste. On s'est rencontrés sur deux autres spectacles en amont. Je trouve ça indispensable aujourd'hui. C'est un autre champ de conscience et de lutte, de militantisme, je dirais, qu'on peut mettre en branle, nous, en tant qu'équipe artistique. C'est que je trouve indispensable de parler, de reparler, de re-reparler de la guerre d'Algérie. Si on veut que les choses aussi soient accessibles au plus grand nombre, pourquoi on laisserait non accessibles pour toujours des spectacles qui sont jamais adressés aux gens sourds et sourdes, par exemple? Il y a plein de gens sourds et sourdes, et il y a plein d'enfants sourds et sourdes. Et j'ai l'impression quand même que c'est important qu'on puisse avoir le maximum de spectacles ouverts aux gens qui ont d'autres façons de percevoir le monde, en fait. C'est des particularités perceptives. Plutôt que des handicaps, on a tous des particularités. Il y en a qui sont plus marquées que d'autres. Et si on fait pas, nous, l'effort, les équipes artistiques par exemple, d'inviter une comédienne en langue des signes française. On fait aussi l'audio-description avec Valérie Castan pour les gens aveugles. Mais on n'y arrivera jamais. Alors, je pense que c'est super important aussi que les enfants puissent avoir envie d'être, devenir comédiens, danseurs, danseuses, chorégraphes, metteurs, metteuses en scène. Et si c'est les enfants qui ont des particularités perceptives ne voient pas des spectacles, on ne sait même pas que ça existe comme métier. Donc c'est un petit effort. Alors c'est un petit effort financier surtout, parce que c'est pas du tout un effort, c'est un plaisir absolu de bouger les lignes. Parce que quand on reçoit quelqu'un, moi j'ai pas encore créé vraiment que pour les enfants sourds ou aveugles, par exemple. C'est toujours un deuxième temps, et c'est vrai que c'est super quand il y a plein de compagnies d'ailleurs qui existent, de gens qui sont concernés par les particularités perceptives, qui font des spectacles, qui sont eux-mêmes comédiens-comédiennes. Moi, j'ai jamais créé avec, ce qui est le cas de Lucille Lataste, elle est metteuse en scène, avec des équipes de gens sourds et sourdes. Donc elle est carrément à un degré plus investi que moi. Moi, c'est vrai que je l'invite après coup, mais elle arrive quand même très vite après la création. On fait la création. Et puis, on fait la création, et à la fin de la création, elle arrive. Donc, on fait la création déjà avec elle. Mais c'est vrai qu'elle ne participe pas aux 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines. Mais c'est une question d'argent aussi. C'est qu'en fait, ça a un salaire en plus. Donc là, pour l'instant, elle vient une semaine, et on crée la lumière et la fin de la pièce avec elle. C'est indispensable qu'elle performe avec nous. Ce n'est pas comme à la télé, dans une petite vignette avec quelqu'un qui fait des langues des signes. C'est-à-dire que si on veut que les enfants aient du désir de faire ce métier et du désir pour le spectacle, il faut que la personne qui signe performe avec nous. Et là, je l'ai vraiment appris avec... Enfin, j'avais jamais vu de spectacle signé à part avec Lucie. Donc elle m'a tout de suite demandé d'être partie prenante. Et moi, c'était une évidence. Mais en fait, j'ai vu après que c'était pas du tout comme ça tout le temps. Mais c'est grâce à Lucie que j'ai découvert ça. Et comme elle est aussi... Elle a une formation de danseuse, c'était hyper simple aussi de l'inviter au plateau. Et moi, je trouve la pièce mieux quand elle est là, en fait, parce que elle a, évidemment, c'est une personne en plus, c'est un esprit en plus, c'est un monde en plus, et c'est une langue en plus. Et je trouve que la langue que les gens entendent et celle qu'on n'entend pas, qu'on voit chez Lucie dans son corps et dans ses mains, ça apporte une part à la fois de compréhension, parce que bizarrement, même quand on ne sait pas signer, qu'on comprend pas, c'est quand même un langage qu'on comprend. On comprend le langage des gestes entre nous, les humains. Et c'est aussi un monde de mystère. Et pour moi, les spectacles aussi, c'est des fines couches de mystère qu'on superpose. C'est pas tellement... Les spectacles, pour moi, c'est pas des choses qui disent quelque chose. C'est des mystères qu'on fabrique ensemble. Nous, au plateau, avec vous, les regardeurs, regardeuses. Qui donnent à penser, qui donnent à rêver. Et Lucie donne vraiment à penser et à rêver.
La bande son de La Petite Soldate, elle mélange à la fois du Stravinsky, mais aussi des sons très contemporains, voire disco, avec les Bee Gees, sur lesquels les enfants vont très vite réagir, alors même que c'est une musique qui, sans doute, ils ne connaissent pas, ou en tout cas sur laquelle ils n'étaient pas nés quand elle était à son plein. Comment vous avez pensé ces choix musicaux ?
Tout de suite, l'idée, c'était de ne pas utiliser la musique originale de Stravinsky. Mais par contre, Stravinsky est là en fantôme. C'est-à-dire que Stéphane Montero, dont le nom d'artiste est Xtronic, a créé toutes ces nappes électroniques d'après Stravinsky. C'est-à-dire qu'il a étiré certains morceaux choisis de Stravinsky, tant et si bien qu'on ne les reconnaît pas. Mais quand même, il y a le fantôme de Stravinsky qui existe dans les nappes d'électro d'Xtronic. Et puis la partie musicale, piano, c'est ça que je voulais dire, c'est un autre compositeur, Christian, son nom d'artiste, qui a fabriqué le piano. Et en fait, c'est vraiment un accord entre Xtronic et Christian, qui ont tous les deux travaillé d'après Stravinsky. Mais donc, effectivement, il y a quelque chose de très mélancolique, par exemple, et dans certains airs de l'histoire du soldat, dont on peut repérer l'esprit dans ce qu'on fait Xtronic et Christian. Sachant que Stravinsky est vraiment tout à fait fantomatique. Et les Bee Gees, en fait, arrivent vraiment, crèvent un peu l'écran de façon volontaire. C'était pas facile d'ailleurs de voir comment ça allait fonctionner, parce que c'était quand même pareil, assez hasardeux de dire c'est un peu bizarre de l'électro, puis du piano mélodique d'après Stravinsky avec des Bee Gees. Mais l'idée, quand même, pour moi, comme c'était à la fois l'après-guerre d'Algérie et que c'était assez évident pour moi que il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre, qu'il y a une poche d'espoir qui perce dans les années 70, que j'ai pas connu moi, parce que moi j'étais enfant dans les années, c'est 77 les Bee Gees. Donc moi j'ai dansé plus tard un peu sur les Bee Gees, mais en tout cas je sentais que ça bougeait. Bah, il y avait les années 68 que j'ai pas vécu, mais je sentais que ça bruissait, et surtout moi à un moment donné j'ai vécu aux États-Unis dans ces années-là, et donc j'ai connu les Bee Gees aux États-Unis. Et les gens étaient en pâte d'eff, il y avait tout un... Je l'ai su plus tard en lisant les livres d'histoire, parce que moi j'étais trop enfant pour le vivre, mais il y avait une libération des mœurs. Et évidemment, le disco aussi est d'abord une musique qui vient de la culture africaine-américaine, qui vient du jazz et du gospel. Et donc c'est vraiment la culture noire qui a pu créer le disco, avec des disco-divas, ce que représente Lucy pour moi, c'est-à-dire des femmes qui chantent super bien et qui sont des stars du disco. Et avec justement cette frénésie des boîtes de nuit, c'est vraiment la grande époque aussi des boîtes de nuit, où les communautés à la fois africaines-américaines, homosexuelles, s'expriment dans la danse et dans la musique, dans les boîtes de nuit. Alors pas à l'extérieur, hein, il y a encore le mouvement des droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King a été assassiné, etc. Mais dans les boîtes de nuit, la nuit, il se passe quelque chose. Et pour moi, c'était hyper important de montrer ça, d'avoir ça en tête, parce que je ne le montre pas sur le plateau, parce que c'est aussi les années de mon enfance, et c'est aussi le silence sur l'Algérie. C'est qu'à la fois, le monde change, il y a des mouvements de décolonisation, les colons s'en vont et les gens reprennent le pouvoir dans leur pays. Après, ça a été la merde dans bien des pays, mais il y a vraiment une effervescence pleine d'espoir de ça. Et donc j'avais envie que, dans la musique, c'est très fort, parce que c'est une musique extrêmement joyeuse, le disco. Et je pense que les enfants connaissent, parce que je pense qu'il y a beaucoup de reprises dans les réseaux sociaux de tubes disco. Parce que je suis très étonnée de voir, alors déjà, il y a eu un jeu de Fortnite, il y a quelques années, où il y avait des personnages de Fortnite qui dansaient la danse de John Travolta. Night Fever. Donc ça, j'ai appris ça, c'est des jeux vidéo, en fait. Donc en fait, il y a beaucoup
de références
au disco aujourd'hui. Les enfants n'ont pas la référence ni du disco de culture africaine-américaine. Et ironie du sort, en plus, c'est grâce à cause des Bee Gees, qui est un groupe blanc, que le disco a été mondialisé. Et grâce au film d'un blanc avec des acteurs blancs, La fièvre du samedi soir, que le disco a explosé. Donc en fait, ils sont encore fait. On a encore écrasé la culture africaine-américaine, parce que c'est les blancs qui ont. Mais en tout cas, voilà, c'était important pour moi de faire entendre cette poche comme ça de joie, de joie de la danse, de joie de déconner sur une piste de danse. La piste de danse, d'ailleurs, est un hommage aux pistes de disco, parce que vraiment, c'est la piste de danse à LED, c'est la piste du disco des années 70. Mm-hmm. Et donc, c'était vraiment cette idée-là d'avoir un plateau un peu tangant, comme ça, le plateau au sens littéral du terme, la scène avec, d'un côté, cette piste de danse, qui est plutôt du côté où l'orchestre de Stravinsky était, d'ailleurs. Hein. L'orchestre de Stravinsky était sur scène plutôt à cour ou à jardin. Mais enfin, voilà, moi, j'avais lu un peu du côté cour. Et de l'autre côté, effectivement, il y a les poupées. Donc, ça rappelle le dispositif scénographique de 1917. Et en même temps, c'est plus un orchestre avec des instruments réels, c'est une piste de danse qui où tout à coup l'homosexualité s'invite aussi, parce qu'il y a une danse entre la fiancée et la soldate. Donc voilà. Et on savait pas jusqu'à la première si ça allait tenir. C'est toujours un peu. Moi, je me pose toujours la question de savoir si ça marche. Hein. Mais j'aime bien le tenter à chaque fois. Mmh. Ça coule pas de source, je dirais. Ça coule pas de source. Je dis pas, ça va super bien, Stravinsky, l'électro, le piano et les Bee Gees. Mais en tout cas, pour les enfants. Je vois le déferlement de folie au moment du disco, ça prend les corps, quoi, ça prend les tripes, tout le monde a envie de danser. Et c'est aussi des soupapes de relâchement de l'attention dans un spectacle qui demande beaucoup d'attention quand même, parce qu'encore une fois, la langue n'est pas facile, l'histoire est complexe, il y a des transpositions avec la guerre d'Algérie, etc. Donc ça permet aussi de respirer. Et historiquement, c'est juste, parce qu'effectivement, l'après-guerre d'Algérie, c'est vraiment ces années-là. Donc on retombe sur nos pieds, en fait.
Qu'est-ce que vous aimeriez que le public emporte avec lui en quittant la salle ?
Pour moi, les spectacles, ils ne sont pas faits pour quelque chose, en fait. Même quand c'est pour les enfants. Ce n'est pas tant que je m'en fiche et que ce n'est pas mon problème. Mais je ne fais pas des spectacles pour qu'on en fasse quelque chose. Parce que moi-même, en tant que spectatrice, je vais beaucoup aux spectacles, je vais beaucoup au cinéma, j'adore ça. J'y vais pas pour prendre quelque chose. Je sais pas comment dire. C'est une question vraiment hyper, très profonde, je trouve, très nécessaire aussi. Hein, je veux pas battre, beauté en touche. Mais je sais jamais répondre à cette question parce que moi-même faudrait que j'analyse, que je prenne plus le temps d'analyser. Par exemple, j'ai vu un film j'ai vu Sirat il y a pas longtemps. C'était une claque ce film. Alors, je vais pas dire j'attends qu'on me mette des claques, c'est ridicule, c'est pas du tout ça non plus. Je vais dire un truc très bête, hein, mais que j'ai toujours senti. C'est pour ça que j'ai aimé le rapport à l'art tout de suite. J'ai eu la chance d'aimer apprendre à lire et donc de lire et d'aimer lire très vite. Et je me souviens de La Mare au diable de George Sand. Je l'ai lu, je sais pas, plein de fois à la lampe de poche dans mon lit sous la couverture parce que il était un peu tard et mes parents étaient pas du tout contents que je dise tard. Mais ça m'a mis dans un. En fait, c'est ça. C'est que je crois que ça me met dans un état que j'arrive absolument pas à analyser, mais qui est vraiment un état de bouleversement total, que ce soit en. Je me souviens plus ce que je ressentais vraiment pour La Mare au diable. Je me souviens plus. Je l'ai relu depuis, donc je me souviens plus de l'état que j'avais quand je le lisais à 7 ans. Mais je pense à La Mare au diable. Je pense à Pêcheur d'Islande de Pierre Loti. Je pense à Le Petit Pousset avec Jean-Pierre Mariel quand j'étais petite. Ce film, je suis restée dans le cinéma et je l'ai revu une deuxième fois. Ça me met dans. Je crois que ça m'emmène. Enfin, ça totalement ailleurs en fait. Ça, donc du coup, je sais même pas si ça m'apprend quelque chose de la réalité, parce que même quand j'étais enfant, je savais bien que ça n'existait pas, un ogre avec des grandes bottes, ou un, je sais pas, Gaude dans Pêcheur d'Islande. Enfin, peut-être je croyais qu'elle existait pour de vrai, Gaude, là, qui perd son fiancé parce qu'il meurt en mer. Mais je sais pas, ça me bouleverse complètement. C'est comme si je pouvais pas parler après, en fait. Donc, et je sais pas ce que j'en retire intellectuellement, c'est pas une forme de. Et donc moi, je fabrique des choses plutôt comme ça. Je fabrique des choses qui créent des affects. Bizarrement, alors que je suis quelqu'un qui parle toujours de rigueur au plateau. Enfin, je sais pas, il y a pas du tout de psychologie par exemple dans mon travail, parce que ça travaille vraiment de danseurs avec des partitions chorégraphiques, de timing, de rythme. C'est très, il y a même une dureté, je dirais. Mais par contre, j'aime bien créer des circuits où les affects s'expriment. Et c'est pas seulement les miens d'ailleurs, parce que je veux dire, quand Xtronic ou Christiane composent de la musique, ce sont pas mes affects. Eux, ce sont leurs affects. Et leurs affects me... Oh, mais ça, quand Stéphane ou Christian, donc c'est le Christian Vidal et Stéphane Montero, me font écouter leur musique, ça me... Oh, je suis bluffée à chaque fois, ça me fait un... Et pour moi, c'est ça, c'est que mettre en... C'est comme quand je vois les mains de Lucie, quand Lucie arrive dans sa robe et qu'elle se met à signer, je suis totalement... Ou Hélène avec sa... Avec sa magnifique présence, comme ça, de ses cheveux rouges, et qu'elle elle est c'est-à-dire que je mets en présence des affects d'humains qui ont traversé, moi, historiquement, ma famille, la guerre d'Algérie, du mauvais côté du côté, en tout cas, je dis mauvais côté de l'histoire, du côté de la colonisation. Des gens qui font de la musique, des gens qui signent. C'est ça, en fait. Anne Dessertine qui a fait des poupées, elle a créé des poupées absolument sans visage, sans expression, mais que je trouve vraiment propice à toutes les projections possibles de l'imaginaire. C'est ça, en fait. Je crée des circuits d'affect qui vont toucher l'affect des autres. Mais je n'ai pas envie d'induire leurs affects parce que je ne les connais pas, leurs affects, en fait. Mais je pense que les travaux artistiques, ça fait ça, en fait. Pourquoi on aime telle chanson? Pourquoi on aime tel film? Pourquoi on aime telle série? Moi, j'adore, je regarde beaucoup de séries. Il y a des moments de certaines séries que j'attends Stranger Things avec un grand impatience. Là, cette bande de mômes, ça. Je dis pas que tout n'est pas bien. Enfin, puis même dans un spectacle, par exemple, moi, quand je suis spectatrice, il y a des spectacles que je n'aime pas forcément tout. Mais s'il y a cinq minutes qui me... Enfin, c'est ça, en fait. C'est que des choses... Ça nous rend plus connectés, en fait. Mmh. C'est ça, c'est que je crois qu'on a besoin de se relier. Et qu'en fait, l'art, ça nous relie, nous, à nous-mêmes, déjà. C'est déjà, mais si on n'est pas relié à soi, comment on se relie aux autres, en fait? C'est un mouvement conjoint, parce qu'on n'est jamais tout seul. Mais c'est jamais quelqu'un tout seul qui fait un spectacle. C'est toute une équipe. Et donc, si on se relie à un spectacle, à un film, à une chanson, c'est toute une équipe de gens. C'est des ingénieurs du son derrière des consoles qui enregistrent. Et un écrivain, c'est pareil, il est peuplé de 1000. Un écrivain est peuplé de 1000 personnes qui. Donc, c'est ça, c'est de se relier les uns les unes aux autres, en fait. C'est ça, je pense que c'est de se relier.
Vous avez entendu en illustration musicale de cette rencontre entre Nadia et Gaël Bourges qui parlait de l'histoire du soldat donnée pendant le festival TNB au Théâtre Ludico. C'était le vendredi 21 novembre. Vous avez entendu donc Walter Murphy et une petite démarque de la 5e symphonie de Beethoven. Et puis aussi les Bee Gees, bien sûr, et aussi des extraits de la version française originale de l'histoire du soldat, telle que écrite en 1917 par Charles Ferdinand Ramuz et Igor Stravinsky. Les transmusicales et les bars en trans, c'est aussi l'occasion de ne pas aller à ces deux festivals et d'aller voir ce qu'on vous propose dans des off ou des ouf même. On verra dans quelques instants. Vous retrouverez par exemple, et c'est avec ça qu'on commence les infos concerts spéciales off de Trans 2025, vous retrouverez le 4 décembre aux Ateliers du Vent une très chouette soirée proposée par Epistolar et Muraille Musique, où vous retrouverez l'oiseau aperçu bien sûr à la batterie, notamment dans la Tremble et aussi avec Claptrap. Là, il sera en solo avec quelques percussions travesties, une batterie de fortune et puis une électronique qu'il nous dit sagouine et capricieuse. Vous découvrirez donc l'oiseau en solo avec des tentacules pour mener tout ça, forcément. Percussion amplifiée, synthétiseur, xylophone, guitare et voix. Vous retrouverez aussi New Eight, quelques chansons d'amour déçues en occitan, jouées par une dame bricolant des machines. Voilà ce qui vous attend. Et puis aussi, vous retrouverez les sélections mixées par DJ Sista Bro. Elle peut tout vous faire entendre et vous faire danser, peut-être sur quelques titres afrobeat parsemés d'un peu de BM, de voix, de drone, de silence, des rythmes et des genres sans complexe, nous dit-on. Et puis vous retrouverez Marion Cousin et Héloïse Decaze qui, pour une première fois en duo, eh bien, nous donneront leur version de musique du nord-est du Portugal. Vous allez pouvoir entendre justement Marion Cousin et Héloïse Decaze. Le tout, c'est donc aux Ateliers du Vent le jeudi 4 novembre. C'est grâce à Epistolar et Muraille Musique que vous retrouvez cette belle soirée qui sera en prix libre à partir de 8 euros. On écoute Héloïse Decaze et Marion Cousin avec ce titre A Fonte do Salgueirinho. Je parle très mal le portugais, vous l'avez compris.
Sagarinho,
C'est un concert programmé dans le cadre du Hors les Murs du festival No Border numéro 15 en partenariat avec le Quartz et Bretagne World Sounds que vous retrouverez le jeudi 4 décembre aux Ateliers du Vent. Une belle soirée concoctée par Muraille Musique et Epistolar. On écoutait à l'instant deux des représentantes de cette soirée, Marion Cousin et Héloïse de Cazes, pour un répertoire du nord-est du Portugal. On poursuit avec le post-punk Furibar des Rennais de Guadalteras qui vous sont proposés sur un plateau, pour ainsi dire, par Ideo Productions, Bistricords et La Nef des Fous, qui organisent le OUF, OU2F, le OUF des Trans, c'est le 4 et le 5 décembre à la salle AGH, anciennement 4 bis, et vous y retrouverez pendant 2 jours des concerts dès 15h qui se baladeront entre glam, indie, post-punk, électro, mat-rock, bluegrass, rock cuivré. Il y en aura pour tout le monde, vraiment. Je ne sais qu'une partie des groupes. Vous retrouverez le 5 décembre, par exemple, Monty Picon, The Real Meaning of Life, Chinesky, et puis la veille, jeudi 4 décembre, vous aurez l'occasion de voir, par exemple, Henri ou bien Marie Maiko et aussi Guadalteras. Il finit la soirée, ça commence à 15h ce OUF du côté de la salle AGH et ça se terminera plutôt vers 22h, donc vous aurez de quoi passer de bons moments. Participation libre à partir de 5€. On écoute les excellents Guadalteras. C'était Guadalteras, vous les avez reconnus, qui participent au OUF proposé par Ideo Productions, Bis Records et La Nef des Fous, les 4 et 5 décembre à la salle AGH, anciennement salle de concert du 4 bis. Vous voyez où ça se trouve. On termine la session info-concert avec Oui, un moment assez étonnant qui vous attend du côté du Hibou, rue du Pont des Loges, le 5 décembre, puisque vous retrouverez la Piñata et les Crêtes Brûlées. La Piñata, c'est un duo punk sans guitare qui hurle, et là je vous cite vraiment l'info donnée par le Hibou, des textes spontanément engagés sur une musique jouée très fort. Voilà. Et puis de l'autre côté, eh bien, ce sera les Crêtes Brûlées qui vous enverra quelques chansons plutôt punk, mais en hyper punk folk. Voilà, c'est un peu ça leur genre, le hyper punk folk. C'est du punk safe, nous dit-on, et ça vous propose peut-être, après le concert, d'aller raser l'Elysée pour en faire un parking. Eh bien, pourquoi pas ? Eh bien, pourquoi pas ? On écoute, pour terminer l'émission, les Crêtes Brûlées avec chanson calme. C'est idiot, mais ça ne manque pas d'un certain charme, quand même, je vous l'affirme. Retrouvez playlist et écoute de l'émission sur canalb.fr. Nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission, Le Grand Tout. Ciao !
Un cornichon dans un bocal. La 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 la. J'ai voulu écrire une chanson calme, mais j'étais bien trop vénère. Je voulais que tout le monde fasse la sieste, mais je suis beaucoup trop en colère. Je voulais que tu te relaxes en buvant ton infus, mais je suis trop en colère, j'ai pas ma dose de betterave crue. Ouais, je voulais que tu te relaxes en buvant ton infus, mais je suis trop en colère, j'ai pas ma dose de betterave crue. Comment tu veux qu'on reste calme? Bien calme à jouer des chansons calmes, alors qu'on est énervé et que rien peut nous calmer. Ouais, rien ne nous calmera jamais. Waouh! La 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 la. J'ai voulu écrire un truc joyeux, mais y'a tout qui est triste à chier. J'ai même vu un banquier pleurer dans sa Twingo. Ouais bon, c'était un étudiant banquier. J'ai voulu écrire un truc dansant, et ça a un peu marché. Les pogos c'est de la danse à temps, et les gens dansent sur des trucs tristes et nerveux. Comment tu veux qu'on reste calme? Bien calme à jouer des chansons calmes, alors qu'on est énervé et que rien peut nous calmer. Ouais, rien ne nous calmera jamais. Ouais. La 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 la. Chanson calme, chanson calme. Qui veut une chanson calme? Chanson calme, chanson calme. Tu veux une chanson calme? Chanson calme, chanson calme. Tu veux une chanson calme? Chanson calme, chanson calme. On connaît pas de chanson calme. Chanson calme, chanson calme. Qui veut une chanson calme? Chanson calme, chanson calme. Qui veut une chanson calme? Chanson calme, chanson calme. Tu veux une chanson calme? Chanson calme, chanson calme. On connaît pas de chanson calme. Chanson calme, qui veut une chanson calme, chanson calme, chanson calme, qui veut une chanson calme, chanson calme, chanson calme, qui veut une chanson calme, chanson calme, chanson calme, vous n'avez pas une chanson calme. Comment tu veux qu'on reste calme? Y'a calme à jouer des chansons calmes, chanson calme, alors qu'on est énervé et que rien peut nous calmer, rien ne nous calmera jamais, à part peut-être.